France Inter. Un point sur les informations avec Éric Delvaux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde Serrel, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'affaire Betarame. François Bayrou redit qu'il n'était pas au courant des viols et autres agressions sexuelles dans cet établissement scolaire béarnais. Il l'a répété aujourd'hui à Pau devant d'anciens élèves réunis désormais dans une association de victimes. Nous serons à Pau. Dans ce journal également, le combat d'un père français qui réclame ses deux filles enlevées par leur mère, parties aux États-Unis malgré le droit de garde accordé au père. Faustine Calmel l'a rencontré. À la une encore, les mises en scène de part et d'autre. Au moment de libérer aujourd'hui trois otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Nous serons à Munich, sommet de la sécurité où l'Europe cherche une réplique à la guerre idéologique que sont en train de livrer le président américain et son vice-président. Enfin, nous irons à Nice, premier jour de carnaval, pas toujours gratuit, ce qui inquiète d'ailleurs les Niçois qui redoutent un rendez-vous de moins en moins populaire. Populaire, le temps de demain, Céline Dacosta. Ce sera encore une journée bien agréable.
Oui, avec des éclaircies sur tout le pays et des températures encore douces sur la moitié sud.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Il n'a donc, dit-il, toujours rien à se reprocher. François Bayrou a réitéré ne rien avoir su des viols et violences sexuelles au collège lycée Notre-Dame de Betarame, à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale. Et s'il a certes été à l'origine d'une inspection de cet établissement en 1996, c'était après une plainte pour une claque reçue. François Bayrou a échangé aujourd'hui à Pau pendant plus de 3 heures avec d'anciens élèves faisant partie désormais de l'association des victimes. Bonsoir Elia Bergel, vous êtes à Pau, où le porte-parole de ce collectif a salué un jour historique.
Oui, la scène est frappante. Après l'entretien, François Bayrou, les 9 victimes s'avancent en silence dans le grand hall de l'hôtel de ville de Pau. Leur pas résonne dans la salle et très vite, la voix d'Alain Esquer, le porte-parole des victimes, tremble sous l'émotion.
Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés.
La mine grave, François Bayrou se dit bouleversé par les témoignages, l'expression de la vérité, martèle le chef du gouvernement qui dénonce des agressions sexuelles abominables. Pour autant, pas d'excuses, alors que la gauche l'accuse d'avoir su pour ces violences à Betarame et d'avoir menti à ce sujet à l'Assemblée nationale.
J'ai eu les mots de la vérité qui sont j'avais entendu écho de la plainte pour une gifle. Je n'avais jamais de ma vie entendu, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, parler de sévices sexuels.
Après les explications, François Bayrou tente d'apporter des réponses concrètes. Sa principale annonce ce soir, le détachement de magistrats pour aller au bout du travail sur les 112 plaintes qui visent Notre-Dame de Betarame.
Elie Abergel en duplex de Pau. Depuis plusieurs décennies, 112 plaintes ont été déposées. Aujourd'hui, au Rassemblement national, Jordan Bardella estime que si le Premier ministre a menti devant la représentation nationale, ce serait sur le plan politique extrêmement grave. À l'inverse, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a défendu aujourd'hui son Premier ministre. Qui peut penser qu'on peut scolariser ses propres enfants dans une école dont on connaît les difficultés? Gérald Darmanin dénonce un procès politicien. Voilà 10 mois que ce père de famille réclame ses 2 jumelles âgées aujourd'hui de 10 ans et avec qui il n'a plus aucun contact depuis que leur mère est partie avec elle aux États-Unis malgré une interdiction de sortie de territoire, malgré une décision de justice française qui lui a accordé la garde. Sa grève de la faim durant 33 jours devant l'ambassade américaine à Paris n'a pas suffi. Faustine Calmel, l'homme se heurte donc aux autorités américaines qui refusent d'appliquer le jugement.
En France, toutes les décisions de justice lui sont favorables. Mais dans l'Oregon, où a fui sa femme avec leurs 2 filles, Eva et Juliette, les juges restent sourds à ses demandes. Hermétique au droit international, convention de La Haye, pourtant signée par les États-Unis, plaide Arnaud Paris.
Non seulement je n'ai aucun contact avec mes filles, alors que c'est une obligation des États-Unis de le maintenir. Deuxièmement, l'affaire d'enlèvement aurait dû être traitée en 6 semaines maximum, ça fait 40 semaines. Et surtout, le traité dit de manière très claire que si les enfants étaient enlevés de manière illégale du sol français, doivent être envoyés sur le sol français.
Il ne peut plus leur parler, ne les a pas vus depuis 318 jours. Alors ce père attend aujourd'hui que le gouvernement français engage un bras de fer avec l'administration américaine, soutenu par de nombreux élus, dont le député socialiste parisien Emmanuel Grégoire.
Il faut que vraiment le ministre des Affaires étrangères, que la présidence de la République s'en saisisse et interpelle directement le gouvernement américain dans les relations bilatérales entre les deux pays. S'il n'y a plus de règles, ce sont des milliers et des milliers d'enfants qui pourraient se retrouver sous la menace d'enlèvement, de disparition. Quand on crée des règles, il faut simplement veiller à les appliquer.
Si rien ne bouge côté français, Arnaud Paris tentera de faire passer une résolution au Parlement européen le mois prochain.
Et chaque année, 400 enfants français sont sous le coup d'un enlèvement à l'étranger de la part d'un des deux parents. Une femme de 30 ans est morte, deux hommes sont grièvement blessés, avalés par une avalanche à la mi-journée dans le massif de la Belle Donne en Isère. Le risque d'avalanche était de 3 sur 5 aujourd'hui dans ce secteur sur la commune d'Arvillard. Par ailleurs, en Savoie, deux personnes ont trouvé la mort cet après-midi, là aussi dans une avalanche, sur la commune de Bonneval-sur-Arc. Un détenu, 29 ans, s'est donné la mort à la maison d'arrêt de la Talaudière, c'est dans la Loire, presque un mois après un autre suicide dans ce même établissement.
France Inter, Éric Delvaux.
Les échanges d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens deviennent aussi des séquences médiatiques où chacun met en scène ses libérations. Et bien, ce fut le cas ce matin encore. Sixième séquence d'échanges depuis le début de la trêve. Et une nouvelle fois, les trois otages remis à Israël ont dû passer par une estrade contraint de prononcer quelques mots. Et concernant les prisonniers palestiniens, l'administration pénitentiaire israélienne a diffusé ce matin des photos montrant des Palestiniens libérables habillés de t-shirts arborant une étoile de David et la phrase « Nous n'oublierons ni ne pardonnerons », phrase écrite en arabe. Bonsoir Boris Loumagne.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Tel Aviv sur la place rebaptisée Place des Otages. On entend la foule derrière vous. Ce soir, les familles espèrent que la trêve ne sera pas remise en cause en attendant le prochain conseil de sécurité que doit tenir Benjamin Netanyahou.
Oui, effectivement, on est passé par toutes les émotions ici sur cette place des otages. La joie ce matin après la libération des trois otages, le soulagement aussi de voir que la trêve jusqu'ici tenait bon. Et puis cet après-midi, cette annonce qui a quelque peu sonné les manifestants ici, le Premier ministre qui organise ce soir une réunion avec ses services de sécurité en question la poursuite ou non de la trêve à Gaza et une possible remise en cause de l'accord de libération des otages. Alors on n'en est pas encore là, mais ici, parmi les manifestants, sans de l'inquiétude. Je viens de rencontrer ces deux amis venus du nord du pays pour participer à ce rassemblement. Elle résume bien la pensée des gens ici vis-à-vis du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
J'aimerais qu'il maintienne le cessez-le-feu, mais je pense qu'il ne va pas le faire. Il se fiche du pays, il se fiche des gens, il ne s'occupe que de lui-même. On pense que seuls les gens et les manifestations pourront l'empêcher de mettre fin au cessez-le-feu.
Ici, une grande partie des manifestants plaident pour que la trêve soit prolongée au maximum afin de permettre la libération de tous les otages. Voilà pourquoi les manifestants attendent fébrilement la conclusion de cette réunion.
Boris Loumagne, en direct de Tel Aviv. Autre gros dossier ce soir, gros autre dossier étranger, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe. Si l'on en croit le chef de la diplomatie polonaise, Emmanuel Macron invitera lundi à Paris plusieurs dirigeants européens, information non confirmée ce soir par l'Élysée, alors que les initiatives diplomatiques de Donald Trump sur l'Ukraine inquiètent donc une bonne partie de l'Europe. Aujourd'hui, à Munich, conférence sur la sécurité qui a accueilli Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a pressé ses alliés européens d'envisager sérieusement une armée européenne. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Eric.
Vous êtes en direct de Munich. Les Américains accusent certains pays européens de bafouer les libertés d'expression. Eh bien, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en a débattu aujourd'hui avec son homologue américain. Et Eric, cet entretien se serait plutôt bien passé.
Oui, ces entretiens, hein. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a pu rencontrer son homologue américain, Marco Rubio, dans deux cénacles différents en marge de la conférence de Munich. D'abord, dans le cadre d'une réunion du G7, puis d'une autre réunion avec les Européens seuls. Et au dire de Jean-Noël Barrot, le nouveau patron de la diplomatie américaine s'est montré bien moins vindicatif que le vice-président J.D. Vance hier.
On a parlé des sujets régionaux, les crises internationales sur lesquelles nous voulons nous mobiliser au niveau du G7, mais aussi avec les Européens, au premier rang desquels l'Ukraine. Le souhait des États-Unis, tel que Marco Rubio l'a exprimé, c'est d'avoir une paix durable, ce qui suppose que des garanties de sécurité puissent l'entourer. Et c'est un processus qui ne remet pas en question les alliances que depuis 75 ans les États-Unis ont nouées avec les pays membres de l'OTAN.
À ce stade donc, la relation transatlantique semble préservée, au moins préservée, mais plus signifiant peut-être, la réunion du G7 a pu produire un document commun, signé donc par les États-Unis, un document qui évoque de possibles sanctions supplémentaires contre la Russie si celle-ci devait faire preuve de mauvaise foi dans les négociations qui s'annoncent. C'est la toute première fois que les Américains de l'administration Trump endossent formellement quelque chose qui ressemble à des menaces visant la Russie.
Éric Biegala en direct de Munich avec Johanna Gabrick pour les moyens techniques. Le discours de Donald Trump qui trouve parfois écho sur le vieux continent européen, donc c'est le cas notamment de la présidente suisse, Karine Kellfer-Sutter. Elle dit partager beaucoup de valeurs libérales exposées par le vice-président américain hier, qui était présent hier à Munich. Toujours à Munich, et autre sujet, deux jours après l'attentat à la voiture Bélier qui a fait une quarantaine de blessés en pleine rue, une fillette de 2 ans et sa mère sont décédées cet après-midi. Aux États-Unis, Elon Musk et sa brigade de jeunes de la tech continuent de faire la chasse aux fonds publics avec dans leur viseur notamment plusieurs radios publiques historiques comme Voice of America et aussi Radio Liberty, deux médias financés par l'État américain, créé pendant la guerre froide dans les années 50, donc, ces deux médias envoyaient par-delà le rideau de fer des informations qui échappaient donc à la censure soviétique. Eh bien, aujourd'hui, les deux radios émettent dans une vingtaine de pays, essentiellement d'ailleurs dans l'espace post-soviétique. À Moscou, Sylvain Tronchet a donc réécouté Radio Liberty.
Говорит Радио Свобода, радиожурнал Советский Союз.
Pendant des années, Radio Liberty, Svoboda en russe, a été écoutée par des millions de soviétiques malgré les tentatives de brouillage du pouvoir. Artyomi Troïtski est journaliste et a animé une émission sur cette antenne.
Il y avait principalement 3 stations de radio que la propagande soviétique appelait les voix de l'ennemi. La BBC, Voice of America et Radio Liberty. Leur importance en URSS était énorme. On estime qu'environ 20% de la population de l'URSS écoutait ses voix ennemies, régulièrement ou non.
Animé par des Russes émigrés, Radio Svoboda était un média très politique, souvent bien informé, comme dans cette émission de 1982.
Les gens râlaient, mais s'en accommodaient. Ces dernières années, cependant, l'ambiance a changé. L'incapacité de l'État à remplir ses obligations en matière d'approvisionnement en denrées alimentaires de base a intensifié l'agitation des esprits.
Après l'effondrement de l'URSS, les États-Unis ont réduit le financement de ce média. Avant de le relancer aux alentours de 2014, Radio Liberty est depuis devenu un média numérique et l'un des canaux d'information des opposants russes. Sa fermeture serait certainement bien vue au Kremlin. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Aujourd'hui, 15 février, voilà 26 ans jour pour jour qu'Abdullah Öcalan est enfermé dans une prison turque. Le fondateur du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, avait d'abord été condamné à mort avant que cette peine soit transformée en prison à perpétuité. Cette mobilisation strasbourgeoise, aujourd'hui, ils étaient plusieurs dizaines de milliers, plusieurs milliers à Strasbourg. Manifestation qui a clôturé une longue marche des Kurdes entamée en Bretagne il y a 26 jours. Le pape François restera à l'hôpital le temps nécessaire, communique le Vatican. François a été admis hier officiellement pour une bronchite. Il ne présidera donc pas demain la prière de l'Angélus. Le sport avec le numéro 1 du tennis mondial, l'Italien Yannick Sinner, qui a trouvé un accord ce matin avec l'Agence mondiale antidopage. Après un contrôle positif, il n'est finalement suspendu que 3 mois jusqu'au 4 mai. Donc, l'Italien ne cesse de clamer son innocence. Yannick Sinner manquera donc 4 Masters 1000, mais surtout aucun tournoi du Grand Chelem. Le début aujourd'hui du Carnaval de Nice, 152e édition, avec Une première grande parade populaire est gratuite aujourd'hui dans Nice. Et durant 15 jours, d'autres parades seront payantes, ce qui fait d'ailleurs débat parmi les Niçois. Car le carnaval de Nice est certes l'un des plus célèbres au monde, avec ceux de Rio et de Venise, mais ce ne doit pas être au détriment de sa tradition populaire. C'est ce que dit cette Niçoise. Écoutez, elle s'appelle Maggie.
Il y a beaucoup de Niçois qui disent que le carnaval est devenu un spectacle pour les étrangers, un spectacle payant et cher pour les Niçois. Et cette année, justement, la mairie a fait un effort. Il y a beaucoup de choses gratuites, le charivari. Il va y avoir aussi, on refait la course des garçons de café dimanche. On a même un ami qui prépare justement son déguisement pour aller justement faire la course des cafés. Donc, on remet un peu les Niçois au cœur du carnaval. Et ça, c'est très bien et ça plaît à tout le monde.
Et ce week-end débute également dans le sud la fête du citron de Menton, là aussi pour 15 jours. Et puis demain, s'achèvera à Mandelieu-la-Napoule la fête du mimosa. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Ce sera demain encore une journée bien calme.
Oui, calme et globalement ensoleillée. On aura quand même, par rapport à ce samedi, des nuages un petit peu plus présents sur le quart nord-ouest, avec peut-être même quelques gouttes sur la Bretagne. Encore des brumes sur le nord-est demain matin, avec des gelées, même des brouillards givrants dans la vallée de la Saône. Des gelées sur le nord du pays, globalement parce que les températures iront sur ce secteur de moins 5 à 0 degrés. Plus au sud, on attend 0 à 5 degrés. Ce sera frais aussi, hein, jusqu'à 6, 8 degrés. Près des côtes.
Et les températures vont encore bien grimper dans l'après-midi, sur le sud du pays en tout cas.
Oui, sur le sud, une moyenne qui ira encore de 13 à 18 degrés, 18 à 21 degrés même sur le Pays Basque. Quand sur la moitié nord, ce sera encore bien frais avec 5 à 10 degrés, mais patience. La fraîcheur va persister encore quelques jours sur la moitié nord, mais ce sera beaucoup plus doux à partir de mardi. De l'air chaud va remonter du Maghreb, entraînant une hausse significative des températures jugées plus tôt. Mercredi, la moyenne ira de 15 à 17 degrés du nord au sud.
C'était Céline Dacosta.